Bonsoir, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4. C'est Jeudi Noir qui commence. Et ce soir, c'est Jean-Mathias qui a travaillé. Alors, il va nous parler d'un bouquin que je ne connais.
Un peu, juste un peu.
Juste un peu, dit-il, oui. Non, enfin bon, on verra bien. De toute façon, on pourra toujours le démasquer si jamais il n'a rien foutu. Donc, moi, alors, je ne connais pas ce livre, donc je vais poser des questions bêtes. Voilà, donc. À la technique, il y a José qui nous a choisi les morceaux de musique et vous avez pu entendre The Brigades. Ouais, c'est ça, The Brigades. Et c'est un morceau qui s'intitule Do You Remember Revolution? Voilà. Et le livre dont Jean-Mathias va nous parler, c'est un livre donc, on va s'interroger quand même sur cette déviation idéologique puisque c'est un livre d'Anna Arendt, et oui, qui s'intitule De la Révolution. Alors voilà, il a été publié chez Folio SS, encore une autre déviation, parce qu'habituellement on parle rarement des bouquins qui sont publiés chez Galligrasseuil ou leurs agents. Voilà, donc il va falloir que Jean-Mathias se justifie de tout ça, parce que ça fait quand même beaucoup, je trouve, pour un seul homme. Alors Jean-Mathias, qu'y avait-il dans ce livre intéressant et édité par un éditeur suspect
pour un auteur suspect? Non, bah alors ce livre en fait évidemment c'est une réédition, hein, donc c'est une réédition de cette année là, il y a quelques mois. Le livre est paru au départ, c'est pas un livre récent hein, parce qu'il est paru en anglais au départ en 1963, donc c'est un livre qui est très ancien, qui était plus disponible en français, donc de la révolution de Hannah Arendt. Pourquoi ça m'a paru intéressant ce bouquin-là? Parce que c'est un livre qui est relativement peu commenté et peu discuté d'Hannah Arendt. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Alors, d'abord deux mots peut-être sur.
Oui, parce que Hannah Arendt, elle est citée à toutes les sauces actuellement, j'imagine, sur France Culture par notre éminent collègue Alain Finkielkraut.
Oui, notamment. Alors, qui c'est Hannah Arendt? Bon, déjà, c'est une, on peut dire, une philosophe ou une penseuse de la politique, on va dire ça comme ça, qui est surtout célèbre pour les livres qu'elle a publiés après-guerre, donc dans les années 50. Qu'elle a consacré en fait à la notion de totalitarisme. C'est une des premières à avoir essayé de construire ce concept qui est aujourd'hui beaucoup discuté et un petit peu battu en brèche, puisque le concept de totalitarisme, vous connaissez tout ça, hein, c'est l'idée selon laquelle il y aurait une espèce de trait commun entre tous les régimes totalitaires du XXe siècle, c'est-à-dire aussi bien l'Italie fasciste que l'Allemagne nazie et que la Russie stalinienne. Hein. Et donc il y aurait l'idée au fond d'une espèce de régime que le totalitarisme serait finalement l'espèce de création politique monstrueuse propre au XXe siècle. Et donc Hannah Arendt a été peut-être un des auteurs qui a le plus contribué à mettre cette notion-là en avant et à mettre en avant cette continuité entre les régimes fascistes, nazis et staliniens au XXe siècle.
Continuité qui a été très contestée par pas mal d'historiens professionnels.
Qui est beaucoup contestée aujourd'hui. Hein, donc, mais c'est vrai qu'elle est surtout connue pour ça et citée pour ça. Alors bon, les trois livres qui font un petit peu référence de ce point de vue-là de sa part, c'est un livre qui s'appelle Les origines du totalitarisme. Il y en a un autre qui s'appelle La crise de la culture et un troisième qui s'appelle La condition de l'homme moderne. Alors donc il est beaucoup question dans ces trois livres du totalitarisme et donc des régimes totalitaires du XXe siècle. Elle est aussi connue, Hannah Arendt, et il y a un film qui vient de sortir là sur cette question-là. Elle est aussi beaucoup connue pour un de ses livres qui s'appelle Eichmann à Jérusalem et qui est en fait un texte qu'elle a écrit à partir du procès d'Eichmann, qui était donc un des dignitaires du régime nazi, qui était responsable notamment de l'extermination des Juifs. Et dans lequel en fait elle s'est interrogée sur le caractère souvent très banal, pour le dire un peu platement, du mal. Donc elle a une approche assez morale en réalité hein,
pas seulement, mais qu'il y a aussi deux trois questionnements juridiques qui sont intéressants aussi. Ce bouquin là, quand je l'ai lu il y a un certain temps, ça m'est apparu comme une espèce de super reportage
sur le procès
de journalisme de rêve.
Ouais. Non, c'est un livre qui est intéressant. Alors après, il y a eu plein d'autres polémiques liées à ce livre-là, notamment parce que il y avait aussi derrière la question du sionisme. Hannah Arendt et des juives, hein, de culture juive. Elle a été assez proche du mouvement sioniste. En même temps, elle a défendu aussi l'idée d'un État mixte, hein, qui soit et laïque, hein, en Israël. Donc, elle a pas mal évolué sur cette question-là. Et donc, tous ces textes, bon, ça date un petit peu aujourd'hui parce que c'est des polémiques qui sont un peu anciennes maintenant. Mais c'est vrai qu'elle est surtout connue pour ça, et elle est citée notamment par tous les auteurs de la tradition libérale, hein, essentiellement. Donc dans les années 70, elle a été beaucoup, beaucoup citée par tous ceux qui, au fond, se sont servis de la notion de totalitarisme pour disqualifier finalement le projet même du communisme en réalité.
Et l'idée même de la révolution derrière.
Et l'idée de révolution. Alors, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est qu'en fait, il y a aussi ce livre donc, qui est postérieur aux trois que je viens de citer, là, qui s'appelle « De la révolution ». Et qui lui, alors, est curieusement, enfin pas curieusement en fait, mais qui est beaucoup moins cité par les commentateurs d'Hannah Arendt, parce qu'il traite donc c'est une espèce d'étude à la fois historique et puis un peu philosophique, des révolutions américaines et françaises. Et donc il est question de ces deux révolutions. Et ce que fait Hannah Arendt dans ce livre, c'est qu'elle propose une analyse essentiellement politique de ces révolutions. C'est-à-dire qu'elle essaye de mettre au clair les projets politiques portés par le mouvement révolutionnaire aux États-Unis et en France. Donc alors à l'époque c'est pareil, on est en 61, 62, si vous voulez, il y a une espèce d'historiographie dominante sur la question qui est plutôt d'inspiration marxiste ou alors libérale, mais les deux étant d'accord pour interpréter les révolutions américaines et françaises surtout sur des bases économiques et sociales, hein, et d'expliquer les mouvements révolutionnaires à partir de phénomènes sociaux, de processus sociaux ou économiques. Et Hannah Arendt a aussi été un des auteurs qui a contribué à remettre au cœur des réflexions sur les révolutions leur dimension strictement politique, c'est-à-dire quel est le projet de gouvernement derrière, quel est le type de citoyenneté, le type de liberté publique qui est visé, etc. Autrement dit, quel est le projet politique de ces révolutions. Et dans ce livre, il est question de ça. Et ce livre est beaucoup moins commenté. Alors, en regardant d'un peu près, ça m'a intrigué, cette affaire-là, parce que il y avait des citations qui traînaient un petit peu à droite, à gauche, qui étaient tirées de ce livre-là, qui n'étaient plus disponibles en français, et dans lesquelles il était beaucoup question, donc, non seulement des révolutions américaines et françaises, mais aussi de la révolution russe de 1917, de la révolution russe de 1905, de la Commune de Paris, et aussi pas mal de la révolution hongroise de 1956. Et avec des formules qui, moi, à chaque fois, m'avaient un peu surpris, parce qu'il y avait une forme de jugement très positif sur tous les systèmes, en fait, de démocratie directe, hein, qui s'étaient mis en place à l'occasion de ces mouvements révolutionnaires. Et notamment, bon, que quel que soit le nom qu'on leur donne, hein, que ce soit voilà les cellules du conseil municipal de la Commune de Paris, les conseils dans la Révolution allemande en 1918, les soviets russes évidemment, ou les conseils hongrois. Et donc à chaque fois avec des formules très élogieuses de la part d'Hannah Arendt. Et c'est vrai que c'est un peu surprenant, parce qu'elle est souvent présentée plutôt comme une des têtes des fers de lance du libéralisme, hein, et puis des démocraties libérales au fond. Et donc ça m'a paru intéressant d'aller regarder un petit peu ce bouquin quand il a été réédité. Et de fait, j'ai pas été déçu. J'ai pas été déçu parce que c'est un livre qui insiste beaucoup là-dessus, sur l'importance dans les processus révolutionnaires de ces mécanismes de démocratie directe qui se mettent en place, d'après Hannah Arendt, de manière quasiment spontanée à chaque fois qu'il y a un mouvement révolutionnaire, sans qu'il y ait vraiment de théorie derrière, sans qu'il y ait vraiment d'organisation à l'origine de la mise en place de ces institutions, je ne sais pas trop comment il faut dire. Et ce dont je voudrais parler ce soir, c'est essentiellement la dernière partie du livre qui est consacrée, alors qui est titrée, je ne sais pas si le titre est très heureux, mais qui est consacrée à ce qu'elle appelle la tradition révolutionnaire et son trésor perdu. Alors en même temps, le titre parle de tradition révolutionnaire, mais elle insiste sur le fait qu'en fait, c'est une tradition qui est un petit peu occulte en quelque sorte, parce qu'il n'y a pas vraiment de continuité historique ou de transmission ou de théoricien de ces mécanismes-là. Et toute la dernière partie, qui est très 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 intéressante de ce point de vue-là, est consacrée justement à une espèce d'analyse politique pour expliquer comment les révolutions américaines et françaises ont finalement mis sur la table une espèce de mode de gouvernement radicalement nouveau, et qui est là un petit peu en filigrane, hein, dans tous les processus révolutionnaires qui suivent, et qui donne à réfléchir sur la signification politique de la révolution tout court. Alors, dernier peut-être petit point de présentation. Le texte date quand même par certains aspects, hein. Il faut bien se représenter que c'est un texte qui est écrit et qui est publié en pleine guerre froide, hein. On est dans les années 60. Alors, il y a deux éléments. Il est publié en pleine guerre froide et il est publié 5 ans après la Révolution hongroise. Donc ça nous remet dans un contexte qui est très différent de celui dans lequel on vit aujourd'hui. Mais donc la révolution hongroise, je rappelle rapidement, hein, donc en 56, c'est ce mouvement révolutionnaire qui, lui, se déclenche contre l'occupation russe à l'époque, et qui va en fait voir la naissance en quelques mois comme une traînée de poudre de tout un système en fait de gouvernement par conseil un peu partout en Hongrie, donc des conseils d'usines, des conseils de quartier qui se mettent en place extrêmement rapidement et qui c'est là ce qui a frappé un peu tous les observateurs à l'époque, se sont coordonnés extrêmement rapidement, hein, comme si effectivement c'était une forme de gouvernement assez spontanée et très efficace de manière rapide, quoi. Il y a eu très peu de perte de temps là-dessus. Et donc elle écrit 5 ans après ça, donc je pense que c'est quelque chose qui évidemment a son importance. Après, sur le contexte de guerre froide, c'est aussi important d'avoir ça en tête parce que l'introduction du bouquin présente un petit peu les choses comme ça. Elle explique que finalement, donc on est en 1960, hein, 61, que finalement, pour comprendre un peu ce qui se passe dans la vie politique de cette époque, il faut qu'on arrive à comprendre ce que c'est qu'une révolution, hein, d'où ça vient, ce processus-là, comment ça fonctionne, et finalement, quel est le projet politique qui est porté par les révolutions, et comment ça évolue, quelles sont les tensions, quelles sont les difficultés que posent les processus révolutionnaires. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que d'après elle, c'est finalement quelque chose de très structurant dans toute la politique moderne. Hein. C'est-à-dire que la plupart des gouvernements sont issus de mouvements révolutionnaires ou se réclament d'institutions qui sont elles-mêmes issues d'un mouvement révolutionnaire, que ce soit la référence américaine ou la référence française. Donc il faut comprendre comment ça marche et comprendre effectivement à quoi on a affaire, parce que c'est une espèce de phénomène politique qui est propre à la modernité, hein, d'après elle. Et puis, l'autre point, c'est que d'après elle, en fait, ces mécanismes révolutionnaires ont tendance à remplacer un phénomène beaucoup plus ancien et beaucoup plus classique, d'après elle, qui est celui de la guerre. Et alors le point commun entre les deux, c'est qu'on a affaire à des phénomènes qui peuvent avoir une dimension violente, qui ont même nécessairement une dimension violente, sauf qu'il s'agit plus du tout d'une violence du même ordre et qui a la même signification politique, et que finalement la violence qui est issue des révolutions ou qui en découle, hein, y compris bien des années après, hein, parce que ce qui est légué par les révolutions, en fait, c'est un certain type de questions, un certain type de mouvements, un certain type de phénomènes politiques. Cette violence-là, elle se poursuit, hein, de manière plus ou moins froide ou plus ou moins chaude, après les processus révolutionnaires. Et donc ces mécanismes, ils ont tendance, d'après elle, à remplacer de plus en plus les mécanismes de guerre classiques. Ce qui est notamment vrai, juste sur ce point-là, c'est d'autant plus vrai à l'âge de la dissuasion nucléaire et à l'époque où finalement la préparation militaire des conflits vise avant tout à les éviter. Hein, à les éviter. Alors bon, on pourrait discuter un peu longuement là-dessus, mais disons que du point de vue des États, voilà, les plus en pointe, hein, du point de vue de leur capacité militaire, le but de la préparation militaire est avant tout d'éviter le conflit, hein, d'éviter de déclencher le conflit effectif. Et donc la conclusion de ça, c'est que ben il faut essayer de revenir à une espèce d'étude un peu précise, hein, de ce mécanisme politique particulier qu'est la révolution.
Alors en même temps, si t'exclus la guerre ou si tu opposes guerre et révolution comme ça en disant qu'il faut plutôt s'intéresser aux guerres qu'aux révolutions, est-ce qu'on risque pas de passer à côté d'un problème historique quand même assez important, qui est à savoir que la plupart des révolutions dont on parle, elles sont nées en temps de guerre ou elles ont provoqué des guerres, ouais. Et très très souvent c'est ces guerres, ouais, provoquées ou étant à la source d'eux qui ont entraîné l'échec de la révolution.
Ouais. Alors elle dit bien sûr qu'il y a un lien étroit entre les deux. Hein. Elle dit qu'il y a un lien étroit entre les deux, mais son idée, si tu veux, c'est que alors soit que les révolutions soient déclenchées à la suite de conflits militaires, c'est le cas aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a d'abord une guerre d'indépendance. Mmh. Hein. C'est le cas bien évidemment en Russie. C'est le cas en Allemagne en 1918.
C'est le cas en Espagne.
C'est le cas en Espagne. Alors,
mais
c'est un point qui est marrant parce que dans tous les exemples qu'elle utilise, donc il y a à peu près tous les exemples de révolutions où il y a eu des mouvements de démocratie radicale qui sont mis en place, le seul cas dont elle parle pas, hein, pratiquement pas, je crois que ça apparaît vraiment en deux phrases, c'est la révolution espagnole. Alors j'avoue que là je suis un petit peu c'est un peu surprenant. Bon, alors bon, c'est peut-être son surmoi libéral qui l'empêche de parler de révolution à propos de l'Espagne, mais c'est vrai qu'elle en parle absolument pas. Je pense que c'est parce que ça colle pas exactement avec ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire que elle, ce qu'elle a en tête, c'est une vision un peu spontanéiste, on va dire, hein, des mouvements révolutionnaires. Et je pense que pour elle, la révolution espagnole, elle est déjà trop organisée, hein, par notamment les organisations syndicales, donc on a affaire à un processus révolutionnaire qui est quand même drivé assez largement par les anarcho-syndicalistes en Espagne. Et ça, je pense que ça colle moins avec ce qu'elle a envie de dire, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est quelque chose qui est déjà plus structuré par des organisations et par un système qui finalement ressemble au système de partis. Hein, qu'elle a tendance à opposer au système des conseils. Donc l'exemple espagnol effectivement est très peu discuté. Mais sur le lien dont tu parlais entre la guerre et la révolution, ça elle le dit d'entrée. Mais elle dit, si tu veux, que à partir du moment où les révolutions enchaînent ou embrayent sur des conflits militaires, ou à l'inverse où les révolutions elles-mêmes sont à l'origine de conflits, alors là c'est le cas français, hein, qui qui évidemment embraye sur des guerres de conquête et des guerres offensives contre toute l'Europe, puis Napoléon, etc., bien entendu.
À partir de guerres défensives.
Voilà. Et en fait, elle dit que, même s'il y a évidemment un lien très intime, très étroit entre les deux, en fait, il faut arriver à penser justement ces guerres-là dans leur lien avec la Révolution. C'est-à-dire que c'est pas des guerres classiques de conquête ou de défense, si tu veux. On n'a plus affaire à des conflits de ce type-là, puisqu'on a des conflits qui dégénèrent sur quelque chose de nouveau ou qui sont porteurs d'un projet politique nouveau, c'est-à-dire nouveau au sens où c'est quelque chose de moderne, en gros, qu'on n'observe pas avant les révolutions américaines et françaises. Pour résumer un petit peu. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour le contexte. Je sais pas, on fait peut-être une petite pause avant de rentrer un peu dans le
vif du sujet,
dans le détail, ouais, du texte.
Bonsoir, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. C'est l'émission Jeudi Noir qui continue pour une deuxième partie. Vous venez d'entendre un petit groupe qu'on aime bien et dont on passe souvent quelques morceaux qui se nomme les Louise Mitchells. Et le titre, c'est Michel Impossible. C'est ce qu'on dit souvent de moi, paraît-il. Bah, y en a, ils se marrent tous, et finalement... Que voulez-vous, on a l'humour qu'on peut. Et je vous informe que les Louise Mitchells donc passeront en concert à l'Espace B ce dimanche. Alors, je ne sais pas ce que c'est que l'Espace B ni où c'est. C'est dans le 19e, m'informe José. Voilà, et donc après ces quelques informations et ces blagues hilarantes, nous allons continuer donc l'exposé sur Hannah Arendt et son livre qui s'intitule De la Révolution. Donc voilà, donc je donne la parole au social traître Jean-Mathias.
Voilà, qui l'apprend avec plaisir. Alors, je voulais, pour cette deuxième partie de l'émission, là, je voulais peut-être rentrer un petit peu dans le corps du texte de ce livre d'Hannah Arendt, De la Révolution, donc, qui vient d'être réédité là, chez Folio Essai. Bon. Et donc, je vais m'intéresser essentiellement, comme je disais, au dernier chapitre de ce livre, qui est intitulé La tradition révolutionnaire et son trésor perdu, dans lequel elle part donc d'une analyse des révolutions américaines et françaises pour essayer de comprendre la signification politique de ces du fait que tous les processus révolutionnaires à la suite de la révolution américaine et française ont vu l'émergence de formes de démocratie directe, hein, par un système de conseils, de soviets, de conseils municipaux, mais en tout cas par des modes d'association et d'auto-organisation de base, en quelque sorte, qui apparaissent donc avec la révolution américaine et la révolution française.
Et c'est vrai qu'on a pu voir ça aussi en Amérique du Sud ces dernières décennies.
T'as ça dans tout, oui, t'as ça dans quasiment tous les processus révolutionnaires, mais le point important pour elle, c'est que c'est pas un hasard, c'est-à-dire que c'est un truc qui est constitutif, si tu veux, de tous les phénomènes révolutionnaires. Alors, elle part du cas américain.
Ça veut dire que si une révolution sans conseil, c'est pas une révolution ?
Alors,
parce que, par exemple, je pense au printemps arabe, il y a eu des conseils ?
C'est une question, moi je sais pas, j'ai pas le...
Si tu définis ton concept de révolution ça, genre une révolution, c'est ce qui commence par un conseil et ce qui finit par se faire écraser par des partis.
Ouais. En fait, c'est pas trop ça, elle est pas sur un mode tragique en disant salaud de parti, salaud de faction, c'est pas ça son truc. Alors, je sais pas ce qu'elle dirait sur le printemps arabe, évidemment, c'est 50 ans après, c'est un peu difficile. Mais... son truc, c'est d'essayer de comprendre, si tu veux, ce qui se met en place avec la révolution américaine et française, et qui va ensuite, en quelque sorte, ressurgir comme une espèce de serpent de mer dans toutes les révolutions après. Parce que d'après elle, c'est quelque chose qui est effectivement, c'est un symptôme d'une difficulté qui est propre à la politique moderne, hein, c'est-à-dire celle qui apparaît après la révolution américaine et française. Alors, comment ça se passe ? Son point de départ, c'est au fond un constat, alors qui lui aussi est daté historiquement, mais qui en même temps n'est pas idiot, je trouve, qui consiste à dire, on est dans le contexte de la guerre froide, hein, le texte date de 61, et en fait, elle part finalement de l'idée que finalement la révolution américaine est une révolution, à la différence de la révolution française, qui est une révolution très amnésique, c'est-à-dire que les Américains, à cause de leurs institutions et des institutions qui se sont données dans la Constitution à la suite de la Révolution, ont finalement oublié quel était le projet initial et la signification politique de la Révolution américaine. Et elle dit, le point de départ de la Révolution américaine, c'est la quête de la liberté et de la liberté politique. C'est-à-dire la recherche pour chaque citoyen de pouvoir participer pleinement aux affaires publiques et d'exercer sa citoyenneté. Ça, c'est le point essentiel. Le deuxième, et c'est pas forcément d'ailleurs facile à combiner avec le premier, c'est la recherche du bonheur. Alors, la recherche du bonheur, elle est à peu près intégrée dans les institutions américaines et dans la Constitution. Bon, elle est en tête de gondole dans la Constitution, hein. Mais finalement, le projet de liberté politique et le fait que les Américains soient les premiers, finalement, à avoir renversé un gouvernement monarchique pour mettre en place un gouvernement au nom de la liberté politique, ça, c'est quelque chose que les Américains eux-mêmes ont finalement complètement oublié. Et ce qu'elle observe, c'est que dans les débats et les conflits qui opposent à l'époque, dans les années 60, le monde libre, hein, donc derrière les États-Unis, à l'hydre communiste de l'autre côté, là, du côté russe, finalement, les arguments qui sont utilisés font rarement appel à ça. C'est-à-dire qu'on fait appel au bien-être, ça oui, au développement économique, à la prospérité économique, à la réussite technique, on envoie des gens sur la Lune, on construit des bombes atomiques, etc. Mais finalement, tous ces arguments-là sont finalement secondaires, hein, d'après elle, par rapport à la signification politique de la Révolution américaine, à savoir le fait que de donner à chaque citoyen et à chaque individu une citoyenneté pleine et entière. Et en fait, la cause de ça, elle la voit dans les institutions, hein, que se sont données les Américains. Elle dit pas que c'est des institutions mauvaises, elle dit que ce sont des institutions qui ont gommé, en quelque sorte, ce projet-là, qui ont fait disparaître, hein, l'ambition de liberté politique. Et elle dit que c'est un risque qui, finalement, est perçu très très vite, notamment par les pères fondateurs de la Constitution, en particulier par Jefferson, qui a été le premier finalement à se soucier de ce que les institutions et la Constitution qu'ils étaient en train de se donner allaient finalement saper, hein, l'esprit de la Révolution et ce qui avait motivé les troupes, hein, et ce qui avait motivé le peuple américain pour faire la Révolution. Alors il y a des citations de Jefferson qui sont assez intéressantes, là, page 356 notamment. Donc elle s'appuie sur des citations de Jefferson en disant, donc citation de Jefferson où il dit « Nous n'avons pas encore donné une perfection telle à nos constitutions qu'on puisse se hasarder à les rendre immuables. » Lui qui redoutait, donc là c'est un arène qui parle, lui qui redoutait visiblement l'éventualité d'une telle perfection, ajoutait aussitôt « Peut-on rendre ces institutions immuables ? Je ne le crois pas. » Avant de conclure, rien n'est immuable si ce n'est les droits inhérents et inaliénables de l'homme, au nombre desquels il comptait le droit à l'insurrection et à la révolution. Quand il apprit la révolte de Chase, dans le Massachusetts, il se trouvait à Paris et ne s'en alarma pas le moins du monde, tout en concédant que les motifs en étaient fondés sur l'ignorance, et l'accueillit au contraire avec enthousiasme. Citation de Jefferson, « Dieu garde que nous passions jamais 20 ans sans pareille rébellion ». Le simple fait que le peuple ait pris sur lui de se soulever et d'agir lui suffisait, sans qu'il se soucie de savoir s'il avait eu raison ou tort. Car, citation de Jefferson encore, « l'arbre de la liberté doit être rafraîchi de temps en temps du sang des patriotes et des tyrans, c'est son engrais naturel ». Donc il y a quelque chose d'assez surprenant là-dedans, c'est-à-dire que Jefferson est presque un des premiers théoriciens de la révolution permanente, quoi. Hein, si on lit Hannah Arendt, c'est que pour que ça marche une démocratie, et pour que ça marche voilà, la démocratie qui est portée par la révolution américaine, il faut que ça saigne de temps en temps, pas que ça saigne, mais il faut que le peuple se soulève et manifeste sa souveraineté sous forme insurrectionnelle régulièrement, parce que sinon il s'endort.
C'est amusant, tous les 20 ans.
Tous les 20 ans, c'est
à ce qu'il dit. À chaque génération.
C'est quand même quelque chose. Hein, oui. Sachant que c'est le mec qui est donc le co-rédacteur de la Constitution américaine, qui est censé du coup définir le programme ad vitam aeternam. Hein. Donc il y a ces formules-là. Et alors, d'après Jefferson, en fait, le nœud du problème, il résidait pour lui dans la capacité des institutions américaines à mettre en avant les municipalités. Hein. Et il y a c'est les débats de l'époque, hein, c'est un peu technique maintenant, mais du coup l'idée c'était de passer d'un découpage du territoire avec des unités un peu administratives qui étaient les comtés, qui étaient héritées finalement de l'occupation anglaise, à ce qu'il appelait les districts. Les districts, ce sont les municipalités, c'est-à-dire d'avoir une espèce de maillage, hein, beaucoup plus resserré, dans lesquels les citoyens puissent en quelque sorte s'investir, et c'est ce qu'il appelait lui les républiques élémentaires. Et il n'y a pas de république authentique avec de citoyenneté authentique si on n'a pas de république élémentaire, c'est-à-dire des espèces de cellules, hein, de base en quelque sorte, où le citoyen peut s'investir réellement et peut du coup tous les 20 ans remettre en question le bien fondé des institutions et du gouvernement représentatif. Jefferson, hein, encore une fois, un des pères voilà, de la représentation politique, du suffrage universel, un des pères du bipartisme aussi, hein, parce que c'est aussi ça l'héritage de la révolution américaine. Donc ça, c'est côté américain. Donc, par certaines formules, c'est assez amusant, parce que donc, non seulement elle présente Jefferson presque comme le père de la théorie de la révolution permanente, mais il y a même des formules où on a l'impression, quand il s'agit des districts, là, de Jefferson, c'est pratiquement l'inventaire des soviets aussi. Hein, c'est-à-dire de conseils de base, locaux, basistes, qui permettent à une citoyenneté de la base d'aller remettre en question la légitimité du gouvernement. Donc ça, c'est pour le côté américain. Côté français, alors, c'est beaucoup moins amnésique, parce que c'est un peu dans l'ADN et dans l'historiographie de la Révolution française. Les phénomènes auxquels on a assisté au moment de la Révolution, c'est l'espèce de d'éclosion sur tout le territoire des sociétés populaires et des clubs. Alors, sociétés populaires et des clubs, où il était question exclusivement, finalement, de discuter des affaires publiques. Ça paraît des fois un petit peu incongru, mais effectivement, à partir de 89, 90, 91, jusqu'en gros à l'arrivée des Jacobins au pouvoir, où là, ça va être mis un peu vite au cordeau. Donc, il y a non seulement les sections de sans-culottes parisiennes, mais il y a aussi donc une espèce de multitude comme ça de sociétés populaires, dont les seuls statuts, en général, c'est discuter des affaires publiques. Hein, discuter des affaires publiques pour que chacun puisse effectivement... Et c'était plein, c'était blindé, ça marche du feu de Dieu, les mecs ils passent leur temps à faire des motions, des pétitions, etc. Et c'est ça qui constitue l'âme de la révolution. Parallèlement à ça, on a quoi? On a les constituantes, on a les factions, les partis, etc. Mais le cœur de la révolution, d'après Arendt, il est là.
Aujourd'hui, on a les cafés philo.
Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on a Michel Onfray. Alors donc, là, il y a des citations pareilles, page 370, je lis rapidement. Les statuts d'une des sections parisiennes nous apprennent par exemple comment le peuple s'organisait en société avec un président, un vice-président, 4 secrétaires, 8 censeurs, un trésorier, un archiviste, des réunions régulières, 3 par décade, la rotation des fonctions, 1 mois pour le président, la définition de sa mission principale, 2 points. La société s'attachera à tout ce qui intéresse la liberté, l'égalité, l'unité, l'indivisibilité de la République. Ses membres s'éclaireront mutuellement et s'informeront en particulier eux-mêmes sur le respect du aux lois et aux décrets promulgués, le moyen d'assurer l'ordre dans les débats. Si un orateur se livre à des digressions ou devient ennuyeux, l'assistance se lèvera. Une autre section écoute un discours sur le développement des principes républicains qui devraient animer les sociétés populaires, prononcé par l'un des citoyens et imprimé sur ordre des membres. certaines sociétés qui avaient adopté dans leur statut l'interdiction explicite d'intervenir ou de tenter d'influencer l'Assemblée, considéraient visiblement que leur tâche essentielle, sinon exclusive, consistait à examiner tous les sujets relevant des affaires publiques, d'en débattre et d'échanger des opinions sans nécessairement aboutir à des motions, pétitions, adresses, etc. Et c'est sans doute pas une coïncidence si c'est précisément de l'une de ces sociétés qui s'était interdit toute pression directe sur l'Assemblée, il s'agit de l'Assemblée constituante hein, en l'occurrence, avec les députés élus et tout ça, qu'émane l'éloge le plus éloquent et le plus émouvant de l'institution en tant que telle. Ah bon, etc. Donc je passe là-dessus. Et alors, ce qu'elle observe évidemment, c'est que dans le cas français, tout ce mouvement et toute cette espèce d'effervescence citoyenne de base va rentrer en choc frontal hein, avec une autre création des révolutions, à savoir le système des partis. Système des partis, où là, on a affaire finalement, d'après elle, à un mécanisme politique beaucoup plus classique, c'est-à-dire que dans tous les... Ça, on connaît ça depuis la démocratie grecque, hein, c'est-à-dire des systèmes de factions, d'organisations d'intérêts, de coalitions d'intérêts, etc. Et ce système des partis, lui, se met en place avec une perspective d'institutionnalisation, pardon, hein, du pouvoir politique, comment former le bon gouvernement, voilà, quelle loi promulguer, comment on s'est par les pouvoirs, voilà, comment on organise les choses. Et évidemment, les deux mécanismes apparaissent en même temps, mais de manière complètement parallèle en réalité. Hein, de manière complètement parallèle, et à un moment donné, évidemment, il y a concurrence. Hein. Et ce qu'elle souligne, c'est que par exemple, quelqu'un comme Robespierre est complètement dithyrambique sur les sociétés populaires et les clubs, jusqu'à ce qu'il accède au pouvoir. Et puis il y a un moment où effectivement il accède au pouvoir et puis là il se prend 50 pétitions par jour par arrondissement et un moment où il dit c'est plus possible quoi, trop de démocratie tue la démocratie.
Bon. C'est d'autant plus amusant que Robespierre était un grand lecteur et un grand admirateur de Rousseau.
Bien sûr.
Et que Rousseau étrit le système des partis. Je connais pas un seul philosophe politique de cette époque-là qui valorise l'idée de faction ou de parti.
Avec
chez Godwin dont on a parlé il y a deux semaines, c'est pareil.
Bien
il
sûr.
Pendant la Révolution française. Ouais. Et pour lui, le parti, c'est le mal. C'est ce qui empêche de penser, c'est ce qui empêche de progresser, c'est le germe de la tyrannie.
Avec ce paradoxe que, si tu veux, dans le projet jacobin, et puis c'est un peu le mauvais génie de Robespierre aussi, c'est quand même la fascination pour l'idée de volonté générale et d'un truc qui serait unique. Et en fait, les analyses que propose Arendt, alors bon, là on pourrait sans doute en discuter, mais son idée c'est de dire que finalement le projet de Robespierre c'est d'avoir, de structurer l'ensemble du peuple comme un parti unique. Hein. Donc c'est là où on retrouve évidemment. C'est un peu ces marottes comme quoi le totalitarisme finalement il naît avec Robespierre hein, d'une certaine manière.
Ah, il y a toujours cette idée là aussi.
Ah ben c'est la matrice un peu
de François Furet.
C'est la matrice de Furet, mais Furet, il hérite de Arendt de ce point de vue-là. Hein, donc, alors, elle le développe pas trop. Encore une fois, je vous dis, moi, je vous parle des textes agréables à lire et qui sont lisibles, hein, parce que sinon, la vie est trop courte. Hein. Mais donc, elle discute après. Là, elle en parle pas à cet endroit-là. Mais si tu veux, évidemment, personne n'est pour les factions. Mais en même temps, voilà.
Tout le monde se met dans une faction.
Mais tout le monde se met dans une faction pour réduire les autres, en gros. Donc, c'est un peu la loi du genre. Alors, elle résume. Après, il y a des formules assez chouettes, je trouve, où elle résume ce conflit, donc, entre les Jacobins et puis les sociétés révolutionnaires. Alors, elle explique ça, donc, page 374. Pour schématiser, le conflit entre le gouvernement jacobin et les sociétés révolutionnaires s'engagea sur trois fronts différents. Tout d'abord, ce fut la lutte de la République pour sa survie face à la pression des sans-culottes, c'est-à-dire le combat pour la liberté publique contre la menace toute puissante de la misère privée. Formule un peu équivoque, hein, donc les sans-culottes, c'est la dictature de la misère privée. Bon. Passons, donc d'une part, effectivement, mais elle reconnaît qu'il y avait une légitimité, ou en tout cas, voilà, un enjeu de ce côté-là. En deuxième lieu, la lutte de la faction jacobine visant le pouvoir absolu contre le civisme des sociétés. Et ça commence à l'intéresser davantage. En théorie, c'était là le combat d'une opinion publique unifiée, d'une volonté générale, du côté des Jacobins bien sûr, contre le sens civique, la diversité inhérente à la liberté d'opinion et d'expression. Dans la pratique, ce fut la lutte de pouvoir du parti et de ses intérêts contre la chose publique, contre le bien public lui-même. En troisième lieu, c'était la lutte du monopole du pouvoir du gouvernement face au fédéralisme et à son principe de séparation et de division des pouvoirs, autrement dit, la lutte entre l'État-nation et les premiers commencements d'une république véritable. Et alors évidemment, c'est ça qui l'intéresse, elle, le plus. C'est-à-dire que ce qu'elle observe, c'est que toutes les révolutions, finalement, mettent sur la table la question d'un gouvernement fédéraliste. Et en même temps, bien évidemment, elles mettent aussi sur la table la question de savoir comment on organise la diversité des opinions dans un système représentatif. Et forcément, il y a un clash. Et forcément, il y a un clash à un moment. Alors, dit comme ça, ça paraît peut-être un peu évident, mais finalement, c'est assez macro, quoi, comme analyse, mais je trouve ça assez juste, en réalité. C'est-à-dire que, on a affaire, voilà, à une diversité d'opinions qui est constitutive du projet, de l'esprit de la Révolution, hein. Et en même temps, ce souci de poser des institutions et de construire sur des bases nouvelles, d'installer un ordre nouveau qui est aussi dans le projet révolutionnaire, hein, qui va amener forcément à un moment donné à se poser la question de savoir comment on réduit cette diversité-là. Comment on la réduit, ouais. Et ça va être c'est ça qui est évidemment à l'origine de la représentation et des systèmes représentatifs modernes qui ont évidemment pour effet immédiat de dégager le peuple comme acteur et les citoyens comme acteurs de la vie publique. Et on a cette espèce de serpent qui se mord la queue en quelque sorte. Et les conseils sont pas du tout les conseils ou les sociétés populaires sont pas du tout des anecdotiques ou contingents. C'est inscrit dans le projet même de la Révolution en fait. Hein, cette question là. Alors ça c'est pour ce débat qui se met en place. Et donc au fond finalement. Juste avant la pause, on en parlera, on va développer ça après. Finalement, une des clés, hein, de tous les mécanismes révolutionnaires, c'est finalement cette espèce de concurrence et de conflit, hein, qui se met en place entre un système de conseils, hein, et la logique des partis, hein, qui est dans la construction d'une institution et donc dans la réduction de la diversité des opinions et qui prend acte aussi de ça, de cette espèce d'émergence d'un fait politique complètement nouveau avec les révolutions, qui est l'émergence d'une opinion publique. Donc voilà, comment ça s'articule finalement. C'est ce conflit-là qui est le moteur et le cœur finalement du processus révolutionnaire.
Musique. We'll be right back. soir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. C'est Jeudi Noir qui se poursuit pour sa troisième et dernière partie. Voilà, vous venez d'entendre un morceau des Porte-Manteaux qui s'intitulait, comme vous vous en doutez, Assaïra. Voilà. Je vous rappelle, avant d'oublier, que vous pouvez télécharger nos émissions sur le site Gurdulu, G-U-R-D-U-L-U. Et vous tapez Gurdulu plus .org, oui, plus Jeudi Noir, et vous tombez directement sur la page normalement. Voilà, et toutes nos émissions y sont stockées grâce au bon soin de José. Voilà, donc nous allons finir de parler donc du bouquin de Arendt qui intitule De la Révolution, voilà, et que vous pouvez trouver dans la collection Folio Essai. Alors Jean-Mathias, sur quoi tu voulais insister pour terminer?
Ben, pour terminer, c'est un petit peu essayer de préciser la manière dont Hannah Arendt explique la signification politique de ces modes de démocratie directe qui apparaissent dans tous les processus révolutionnaires, et ça depuis la Révolution américaine. Et redonner peut-être la parole un petit peu une fois encore à Jefferson, parce que c'est étonnant, quoi, de voir l'espèce de lucidité qu'il pouvait avoir, hein, sur l'importance de cette démocratie directe dans la perpétuation et le maintien du projet révolutionnaire, hein. Et lui-même, qui était donc un des co-rédacteurs de la Constitution américaine, était parfaitement conscient des risques qu'il y avait à perdre, hein, cet esprit de la Révolution et cette aspiration à la liberté politique par des institutions qui du coup font basculer rapidement les choses du côté de la représentation, des élections, de la délégation, et qui rendent finalement les citoyens amnésiques à la révolution de laquelle ils héritent. Alors, donc j'en ai parlé tout à l'heure, Jefferson à la fin de sa vie insiste beaucoup sur la mise en place institutionnelle de ce qu'il appelle des républiques élémentaires, donc ou encore des districts, hein. Il y a toute une série de textes de Jefferson là-dessus. Qu'est-ce qu'il a en vue? Au fond, ce qu'il craint par-dessus tout, c'est la corruption, et Jefferson est très clair là-dessus, la corruption du peuple. C'est-à-dire que ce qu'il voit, c'est que des institutions qui mettent en place un gouvernement élu, un gouvernement où chaque citoyen délègue finalement sa souveraineté, est convoqué tous les 5 ans, les 7 ans, voilà, et donc abandonne en quelque sorte l'exercice de sa citoyenneté, c'est quoi? C'est des institutions dans lesquelles le peuple va forcément se corrompre, c'est-à-dire qu'il va perdre, hein, cet attachement viscéral à la citoyenneté et à l'engagement politique, au fond, qu'on retrouve dans les statuts des sociétés populaires là, sous la Révolution française. Et en fait, il résume les choses comme ça, donc ça c'est Arendt qui écrit, il écrit « Corruption et perversion sont plus pernicieuses et en même temps plus probables dans une république égalitaire que dans toute autre forme de régime. Schématiquement, elles surviennent, la corruption et la perversion, dès que les intérêts privés envahissent l'espace public, autrement dit, dès qu'ils émanent d'en bas et non d'en haut. Et c'est cette corruption-là qui menace, au fond, les démocraties modernes, d'après Jefferson, c'est-à-dire une espèce d'abandon de l'engagement et de l'intérêt politique de la part des citoyens, hein, qui vont, ben, après avoir délégué, évidemment...
Pour résumer, la corruption, ce serait peu importe qui me gouverne, tant qu'on me laisse faire mes affaires.
C'est ça, hein, tant que mes intérêts premiers et privés sont garantis. Et donc, évidemment, c'est-à-dire que finalement, ben, c'est une perte de sens de l'intérêt public, tout simplement. Hein. Et d'un côté, on a les révolutionnaires français, là, avec leur statut complètement échevelé, où les mecs ils peuvent passer des heures à discuter de la actualité des affaires publiques, etc. Donc on a, voilà, une espèce d'incarnation du souci de la chose publique, presque, voilà, poussé au maximum. Évidemment, la perte de ça, bah, ça conduit inexorablement, à partir du moment où on a un système de délégation, à, voilà, à ce que chacun va s'occuper, bah, de son existence et de ses intérêts privés, et puis perdre le sens et le goût, hein, y compris de l'identité politique.
Il y a des analyses financières qui vont dans ce sens-là, où il dit que c'est justement un des gros problèmes de la démocratie moderne, c'est que elle prétend faire appel au peuple, mais elle déteste quand le peuple intervient trop.
Alors,
et donc,
Alors,
ce problème-là.
T'as un autre point commun, hein, je pense que Rancière, il la cite pas, mais c'est que,
voilà, il la cite.
Lu, il la cite. Ouais, bon, alors, il la cite pas sur ces points-là. Et l'autre point commun, c'est une idée qu'on trouve là, ici, dans ce texte-là, où elle explique qu'en fait, le système des partis, et donc de la démocratie représentative, parlementaire, hein, pour faire vite, eh ben, il a un mode de développement naturel qui est celui d'un développement en oligarchie. Voilà, tout simplement. Et donc, c'est aussi un des thèmes qu'on trouve chez Rancière, ça. Donc, en oligarchie, et en même temps, il n'y a rien de, comment dire, il n'y a rien de, c'est pas une malédiction ou une espèce de malédiction morale qui pèserait sur nos élites. Alors là, pour le coup, c'est une différence avec Rancière. C'est que, d'après Arendt, le problème, il vient d'abord, effectivement, d'une corruption de la part du peuple lui-même. Alors que Rancière a tendance à insister sur le rôle des élites, hein, dans l'espèce de mise à l'écart de suffrage populaire et puis de l'expression populaire au sens large, hein, je ne rentre pas dans les détails de ça. Mais Jefferson, lui, ce qu'il avait en vue, alors je ne sais pas lequel des deux est le plus réaliste, hein. c'est une vraie question, mais ouais. Ce qu'il avait en vue, lui, c'est les risques de perversion du peuple, au sens où le peuple finalement finit par se désintéresser tout simplement de la chose publique, hein, et se concentrer sur une espèce sur la recherche du bonheur, qui est aussi effectivement un des projets de la Révolution, hein, mais en perdant effectivement le souci de la liberté politique. Alors ça, c'est pour voir un petit peu ce que Jefferson avait en tête. Sur ce système de cette émergence des partis, conseils, soviets, Räte en Allemagne, etc. Alors, comment... Est-ce qu'il intéresse, c'est vraiment l'émergence d'une spontanée, d'une forme de gouvernement fédéral. Elle dit qu'il est là, le projet fédéraliste, il est là et pas ailleurs. Hein. Et que comme par hasard, il apparaît à chaque mouvement révolutionnaire, parce qu'il est inscrit vraiment dans le projet. Et alors, il est écrasé systématiquement, il est réduit, parce qu'il pose des problèmes, parce qu'effectivement, bon, il y a des situations, un contexte militaire, et puis il y a cette question-là, de savoir effectivement comment à un moment donné tu fais pour gouverner, d'une certaine manière, c'est-à-dire pour arrêter une direction, pour arrêter un cap, c'est-à-dire que il y a une certaine difficulté, hein, à trancher cette question-là. Les partis, eux, trouvent une solution à ça. Hein, ça, il n'y a pas de... Enfin, ils s'entretuent d'abord, puis ensuite, ils trouvent la solution. Et alors, vis-à-vis de ces conseils, donc, elle formule les choses comme ça, en disant que leur but commun consistait à fonder un nouveau corps politique, un nouveau type de gouvernement républicain, reposant sur des républiques élémentaires, de façon que le pouvoir central ne prive pas les corps constitués de leur pouvoir constituant originel. En d'autres termes, les conseils, jaloux de leur capacité d'agir et de former une opinion, devaient nécessairement découvrir la divisibilité du pouvoir, aussi bien que sa conséquence principale, la nécessaire séparation des pouvoirs dans un gouvernement. Alors, ça c'est le projet effectivement qui paraît évident à tout le monde finalement, et qui paraît évident aux yeux de tout le monde lorsqu'une révolution se met en place. La manière dont ça se passe, alors une autre citation là-dessus, la vérité historique du problème de la politique moderne d'après elle, c'est que les systèmes des partis et des conseils sont à peu près contemporains. Ils étaient tous deux inconnus avant les révolutions et sont tous deux la conséquence de l'idée moderne et révolutionnaire que les habitants d'un territoire donné sont en droit d'être admis dans la sphère publique politique. Hein ? C'est ça l'enjeu fort. Et pour terminer, alors ça c'est dans le cadre de ses analyses à elle, en fait ce qu'elle finit par opposer, le sens de cette opposition entre le système des conseils, la démocratie directe et les systèmes représentatifs, c'est finalement une espèce de conflit entre deux principes, hein, qui sont vraiment les deux pôles de la politique moderne. C'est le principe de la représentation et ce qu'elle appelle le principe de l'action.
On retrouve Marx versus Bakounine dans l'International.
Alors tu retrouves ça, c'est référence. Alors elle signale effectivement, évidemment, que, alors bien sûr, elle dit que tous les théoriciens révolutionnaires et tous les révolutionnaires professionnels, évidemment, à chaque fois restent comme deux ronds de flanc quand il y a des conseils qui apparaissent. C'est-à-dire qu'en gros, ils passent à côté systématiquement parce qu'ils sont structurés en partie. Ils sont structurés en partie avant, pendant et après la Révolution. Hein? Donc ce sont des instituants. Les militants professionnels, hein. Et donc évidemment à chaque fois ils comprennent pas, et c'est un truc qui gêne, qu'il faut éliminer rapidement. Bon, voilà, ça c'est assez classique. Elle dit, sauf évidemment chez les anards, ça elle le dit quand même. Elle dit qu'évidemment chez Proudhon et Bakounine on trouve des formules où il y a une sympathie là-dessus, mais je pense que elle insiste pas, parce que je pense qu'à ses yeux les anarchistes organisés, alors par exemple, sont déjà d'une certaine manière dans un système qui se rapproche plus de celui des partis, d'après elle, hein.
On revient à ce que tu disais de la guerre d'Espagne.
De la guerre d'Espagne, je pense que c'est ça. Mais alors après, sur cette opposition-là, bon, c'est un peu du macro, là, il faudrait sans doute préciser un peu les choses.
Elle regarde de très très haut.
Elle regarde de très haut, et puis surtout, bon, finir, voilà, opposer l'action à la représentation, bon, sans doute, mais il y a quelque chose qui n'est pas inintéressant là-dedans, c'est-à-dire que... Elle, ses références, c'est toujours la démocratie antique. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est l'exercice de la citoyenneté pleine et entière, telle qu'elle est en place dans la démocratie athénienne. Hein. Et donc, effectivement, alors ça, c'est des thèmes qu'on retrouve dans d'autres bouquins.
C'est d'elle. La liberté des anciens.
C'est la liberté des anciens, tout à fait. Hein. Donc, c'est en ce sens-là que c'est une libérale qui est un peu atypique. C'est une libérale atypique parce qu'elle est tout à fait sensible au projet libéral moderne, hein, les droits de l'homme, les droits fondamentaux, les droits inaliénables de l'individu. Elle est profondément individualiste au sens libéral du terme. Et en même temps, c'est quelqu'un qui défend la liberté des anciens. C'est cette combinaison-là qui est intéressante, je trouve, parce que du coup, elle apparaît clairement. Hein,
et alors, la liberté des anciens, pour expliquer rapidement, c'est une opposition qui a été faite par Benjamin Constant.
Lui-même libéral.
Lui-même libéral, et qui s'intitule de la liberté des anciens et de la liberté des modernes. Et des modernes, je crois que j'ai oublié le titre exact, où il dit que voilà, la liberté des anciens, c'était la liberté telle qu'on pouvait l'avoir dans le peuple grec, et elle impliquait que le citoyen était tout puissant, parce qu'il avait tout le droit, il avait le droit de vote, il avait le droit de ceci, il avait le droit de cela, mais qu'en même temps il était complètement désarmé face à la communauté, et qu'il était tenu de s'investir, mais aussi de subir, dans certaines mesures. Il dit, ça marche plus du tout, parce qu'aujourd'hui les gens veulent vaquer leurs affaires privées, et ça c'est la liberté des modernes, et en gros c'est la liberté de...
Les modernes ils veulent qu'on leur foute la paix.
Les modernes veulent qu'on leur foute la paix, voilà.
Le rôle du gouvernement c'est qu'on leur foute la paix, qu'on les laisse effectivement vivre leur vie.
Et qu'on leur donne un cadre qui leur permette de chercher leur bonheur en leur foutant la paix. Donc en gros des flics pour protéger la propriété, une armée pour protéger le pays, et puis des lois pour protéger les contrats.
Voilà.
Et surtout, ne pas trop s'investir en politique.
Ce qui veut dire quand même aux yeux de Constant que ça veut dire aussi, et contre pour les protéger des voleurs, mais surtout, et peut-être d'abord quand même, pour être honnête avec Constant, les protéger aussi des tyrans.
Aussi oui, c'est vrai.
C'est pas un détail.
C'est pas un détail pour Constant, mais en même temps, bon, comme il a eu tendance à se rallier aux tyrans aussi souvent qu'il s'y opposait, c'est un peu compliqué avec lui. Mais voilà, donc, et Constant est un libéral pur jus, et c'est pour ça que c'est amusant effectivement, comme disait Jean-Mathias, de voir qu'Anna Arendt, finalement, elle-même libérale, revient des thèmes à l'antique, qui eux sont plus du tout libéraux, et s'approchent à l'état de... On parlait des conseils, c'est pas rien, parce que les conseils, c'est toujours des choses extrêmement révolutionnaires. Ça donne une tension intéressante.
Ça donne une tension intéressante. Alors, sachant que, encore une fois, faut pas qu'il y ait de malentendu là-dessus, hein, elle a une approche strictement politique de tout ça. Hein, c'est-à-dire que c'est pas les conseils ouvriers et paysans. Oui. Hein, c'est pas les conseils ouvriers et paysans, c'est pas une nouvelle manière de gérer la production, elle est pas du tout là-dedans, hein. C'est-à-dire que le travail, il y a le monde du travail, bon voilà, il est nécessaire, c'est le monde de la nécessité, il y a ce qu'elle appelle le monde du travail, le monde de l'œuvre, ça c'est le monde de la réalisation personnelle, et il y a la politique, et ce sont trois choses distinctes, hein. Et quand elle parle de conseils, c'est en tant que système de décision et de discussion, c'est ça qui l'intéresse, pas le fait que ce soit des ouvriers ou des paysans, hein. Elle est tout sauf marxiste de ce point de vue-là, donc en ce sens-là, elle est effectivement libéralo-compatible, hein. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Mais encore une fois, d'une manière qui me paraît intéressante, quoi, parce que c'est pas le bon. Et d'ailleurs, voilà, alors ça explique peut-être. Maintenant, on peut peut-être comprendre un peu mieux pourquoi ce texte-là d'Anna Arendt de la Révolution est si peu cité par les commentateurs libéraux qui la portent au nu.
Si mes souvenirs sont bons, c'est ce texte-là que cite Rancière dans son bouquin qui s'intitule De la haine de la démocratie.
Ça se peut bien, ça se peut bien. C'est ça. Il y a des chances pour que ce soit celui-là.
Donc, ce sera vérifié.
Bon, mais comme on sait qu'il nous écoute, voilà, on fait une spéciale dédicace à Alain Finkielkraut en l'invitant à relire donc le dernier paragraphe de ce livre-là pour qu'il ait une vision un peu plus globale de d'Anna Arendt, qui est un de ses auteurs de référence. Visiblement, il n'a pas tout lu de manière attentive, parce que là, il y a des choses qui pourraient lui donner sans doute à réfléchir.
Je suis pas sûr qu'il ait encore le temps de lire. Ouais. Voilà, donc c'était Jeudi Noir sur Radio Libertaire. Merci de nous avoir écoutés. Si vous nous avez écoutés, vous pouvez retrouver l'émission sur gurdulu.org, gurdulu, donc G-U-R-D-U-L-U. Et nous allons vous quitter avec un morceau de No Means No qui s'intitule My Politics. Donc, morceau de No Means No. No Means No, c'est un groupe canadien totalement inconnu. Donc, à dans 2 semaines, et cette fois-ci, on vous parlera des Roms en compagnie d'un invité.